C'était à peu près 8 ans, donc j'étais responsable du recrutement dans une entreprise de services numériques où je m'occupais des profils technico-fonctionnels pour des grandes banques. Quand j'ai intégré cette entreprise, il y avait un niveau d'exigence très important au niveau de la qualité des profils. Ils ont très fortement insisté là-dessus et on allait chercher vraiment des profils, ça va être du top management, du middle management, des profils très très expérimentés et très précis au niveau des compétences techniques. Et du coup, il y avait une vraie exigence de la part de cette entreprise pour les profils qu'on allait recruter. Au début, je m'en suis pas rendu compte. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de trouver les profils qui allaient apporter une réelle plus-value à l'équipe et dont le manager serait satisfait et donc bien faire mon travail de recruteur en fait. Hein. C'est au fur et à mesure en fait que je cherchais mes candidats, que je présentais aussi des candidats qui répondaient pas totalement au cahier des charges inconscient aussi des managers, où en fait je me suis rendu compte que systématiquement ces candidats-là étaient écartés et qu'on me ramenait systématiquement vers ce tunnel de critères qui était vraiment comme une liste à la Prévert d'éléments qui relevaient davantage de la vie du candidat, même de la vie personnelle du candidat, du milieu social d'où il venait, de ses réseaux, de s'il était, je ne sais pas, dans tel réseau d'alumni de telle école, s'il était dans tel club sportif, que par rapport réellement à ses compétences techniques. Donc au début, on ne s'en rend pas compte. C'est au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma carrière de recruteuse où j'ai commencé à prendre du recul et analyser cela. C'est d'ailleurs avec ces expériences de recrutement que j'ai démarré, moi, à réfléchir sur le métier de recruteur et à écrire des articles et des conseils, justement, pour un recrutement plus inclusif et un recrutement éthique. Voilà, c'est venu de là, en fait, de l'analyse de tous ces biais cognitifs qu'on a et de comment est-ce qu'on peut les contrer, comment est-ce qu'on peut aussi expliquer aux recruteurs que c'est pas de leur faute, c'est-à-dire que c'est des biais, en fait, qu'on a tous en tant qu'être humain, mais qu'il existe des outils pour, justement, pallier à ça.
Avez-vous déjà entendu parler du syndrome du scarabée ? Probablement pas. Et pourtant, ce phénomène peut faire énormément de dégâts. Ce biais cognitif consiste à privilégier et à recruter les profils qui nous ressemblent le plus, au détriment des plus pertinents et compétents. Ce raccourci mental, très fréquent en recrutement, se produit à toutes les étapes de la vie d'un collaborateur. De l'embauche, donc, en passant par les évaluations annuelles et jusqu'aux promotions. Exit les critères basés sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être, la décision de recruter se fonde uniquement sur le diplôme, l'âge, le sexe, les loisirs ou même encore l'origine ethnique du candidat. Et c'est tout le monde qui en sort perdant. Je suis Marie-Sophie Zambeau, éditorialiste RH, et pour aborder cette thématique plus que d'actualité, nous avons la chance de recevoir derrière notre micro Talal Belout, directrice au sein de la Fondation FAS de la Seine-Saint-Denis. Avec elle, nous allons explorer ce phénomène encore trop méconnu, comprendre ses mécanismes et identifier des solutions pour s'en défaire au maximum. C'est parti. Bonjour Talal et bienvenue.
Bonjour Marie-Sophie, merci beaucoup pour l'invitation.
Un grand merci d'être présente et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je suis aux anges de te recevoir depuis le temps que je te lis assidûment, Talal. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu te présenter à nous ?
Avec grand plaisir. Alors, je suis Talal Belout, j'ai 35 ans, je suis directrice au sein de la Fondation FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, et je dirige le club d'entreprises socialement engagées du territoire de la Seine-Saint-Denis. Auparavant, j'étais Head of Content chez Digital Recruiters, qui est un logiciel de recrutement, et pour lequel je suis restée ambassadrice sur des sujets de marketing RH, de recrutement également, et de marque employeur.
Nous avons souhaité t'inviter pour aborder ce thème du syndrome du scarabée, car tu as écrit il y a quelques mois de ça un article que j'ai jugé vraiment remarquable et ultra détaillé sur le sujet. Alors ma première question, c'est est-ce que tu pourrais me donner ta définition de ce syndrome du scarabée ?
Avec plaisir. Alors, le syndrome du scarabée, c'est un syndrome qui représente un biais cognitif qui est très fréquent en entreprise et qui incite les directeurs, les managers, les recruteurs à recruter uniquement des profils qui leur ressemblent. Alors, pourquoi est-ce que ce syndrome s'appelle syndrome du scarabée ? Même si la désignation peut paraître un peu bucolique, il n'en est rien. Son origine tient en fait d'une étude de deux chercheurs américains dans les années 50 qui ont décidé d'étudier en fait la vie des coléoptères et d'essayer de comprendre quelle espèce en fait allait survivre le mieux. Et ils se sont rendus compte que les coléoptères favorisaient en fait leur propre descendance et mangeaient la descendance des autres familles de coléoptères. Et donc de là est né en fait ce syndrome du scarabée qui consiste à favoriser les personnes qui nous ressemblent au détriment des autres.
Effectivement, c'est un petit peu moins bucolique que le nom le laisse présager.
Exactement.
Tu as eu la gentillesse de nous raconter une anecdote au tout début sur ce biais. Tu t'es rendu compte immédiatement que tu es sujette à ce biais ou c'est rétrospectivement que tu as eu une prise de conscience ?
Alors, au tout début, je ne m'en suis pas du tout rendu compte parce que je voulais vraiment, en fait, remplir le cahier des charges et satisfaire les managers, les autres membres de l'équipe et recruter exactement le mouton à 6 pattes. Hein, c'est même plus 5 pattes qu'on me demandait de chercher. Mais au fur et à mesure des recrutements et des candidats qu'on pouvait écarter sans réelle raison, je me suis rendu compte que quand même, c'était une certaine forme de discrimination qu'on mettait en œuvre et qu'elle était systématique. Cette sélection des candidats qui n'était basée pas uniquement sur les compétences techniques ou même les compétences comportementales, mais sur des éléments annexes qui pouvaient être l'appartenance à un réseau d'alumni ou telle promotion de telle école ou appartenir à tel club sportif de tel département même, par exemple.
Et si la Dalal d'aujourd'hui, plus expérimentée, devait revivre cette expérience, elle s'y prendrait comment ? Qu'est-ce qu'elle ferait de différent ?
Eh bien, pour démarrer, en fait, je travaillerais beaucoup plus avec les managers sur leurs besoins. Parce que je me suis rendu compte aussi que le besoin n'était pas forcément bien défini. De comprendre, en fait, vraiment leurs demandes. Parce que plus la fiche de poste est détaillée et réfléchie, en fait, avec les managers sur des critères vraiment indispensables, que ce soit aussi les soft skills et les hard skills, hein, parce que il n'y a pas que les compétences techniques, il y a les compétences aussi comportementales sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Et pour garantir un équilibre au niveau des équipes et une réelle plus-value, hein, au niveau de la performance, ça serait travailler beaucoup plus avec les managers, donc développer ce recrutement collaboratif et faire preuve de cette pédagogie aussi, c'est-à-dire que d'expliquer en fait ce que c'est que les stéréotypes, d'expliquer les différents biais pour faire en sorte que ces managers puissent les laisser à l'entrée quand ils sont en entretien et regarder le candidat pour ce qu'il est, pour ce qu'il sait faire et pas pour ce que l'image qu'on a envie d'avoir de lui en fait.
Alors là, Dalal, je souscris à 10 000% à ce que tu viens de nous dire. Tu viens de nous donner quelques techniques pour se prémunir au maximum contre ce biais cognitif. Est-ce que tu aurais d'autres conseils personnels à nous donner, s'il te plaît ?
Oui, il y a plusieurs outils qui sont utilisables. Le premier, comme j'ai dit, c'est vraiment la lutte contre les stéréotypes. Parce que ça vient de là, la naissance en fait des discriminations au travail, que ce soit à l'embauche ou après dans le cadre de promotion, d'évolution, ça vient des stéréotypes. Donc il faut lutter contre les stéréotypes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi de 2007, la loi égalité et citoyenneté, qui oblige les entreprises à former tous les recruteurs et les managers qui sont amenés à faire du recrutement. C'est des formations contre la discrimination en fait. Et ces formations, elles sont obligatoires dans les entreprises de plus de 300 salariés. Et si vous demandez autour de vous, ben, en fait, on se rend compte qu'il y a de grand nombre de recruteurs et de managers qui n'en ont jamais bénéficié. Donc il y a cette lutte-là contre les stéréotypes. Il y a le recrutement collaboratif qui peut fonctionner vraiment très bien à condition que justement on a fait ce travail en amont de pédagogie sur les stéréotypes et que les équipes qui vont recruter de manière collaborative soient aussi des équipes mixtes avec des points de vue différents et des horizons et des origines aussi différents. Parce que si dans les recrutements collaboratifs, tous les profils sont strictement identiques, on ne fait qu'additionner tous les biais de chacun. Et donc, ça décuple encore les biais et notamment le syndrome du scarabée qu'on retrouve très fréquemment. Il faut des équipes pluricompétences, des équipes qui ont des profils différents, des visions différentes, et ça mène à beaucoup plus de diversité dans les recrutements.
Je suis contente, Dalal, que tu aies évoqué le recours au collectif comme moyen pour lutter contre les biais, mais que tu aies précisé qu'il y avait des prérequis ou des conditions sine qua non pour que ça fonctionne. Parce que j'entends régulièrement « le collectif, c'est génial, c'est la panacée, on va régler tous les problèmes avec ça ». Et je suis convaincue que le collectif, le recours au collectif, c'est bien, mais qu'il ne faut pas le considérer comme la panacée ou comme le rempart ultime pour lutter contre les biais. Tout dépend comment c'est orchestré, tout dépend comment c'est mis en œuvre. Et ça peut même, mal orchestré, être totalement contre-productif et renforcer encore plus les biais.
Et c'est exactement ça. Et j'irais même au-delà, le recrutement collaboratif, sans les outils adaptés, quand je parle d'outils adaptés, c'est déjà une stratégie de recrutement qui est basée sur des guidelines clairs, objectifs, concrets. C'est-à-dire que si on ne s'est pas mis d'accord sur la grille de recrutement, sur la grille d'évaluation, sur la fiche de poste exacte, le recrutement collaboratif, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les discriminations.
Hormis un brief bien élaboré, bien détaillé, exhaustif et le recours au collectif, est-ce que tu as encore d'autres techniques à nous donner, Dalal ?
Oui, il y a beaucoup de techniques. J'ai envie de vous parler du recrutement sans CV. Alors, on a beaucoup entendu parler du CV anonyme. Malheureusement, ça a fait pchit, c'est-à-dire que ça n'a jamais trouvé sa place en entreprise et il n'y a pas eu forcément d'écho par rapport à ça. En revanche, le recrutement sans CV a fait ses preuves et le Pôle emploi aujourd'hui propose une technique qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, qui permet en fait de recruter des candidats sans tenir compte de leur expérience passée, de leurs compétences techniques. Et on va recruter le candidat en fonction de sa motivation, de sa personnalité, et on va directement lui faire tester le métier. Et ça permet de détecter des compétences transposables auxquelles on n'aurait jamais pensé, et de justement répondre aussi à l'enjeu des pénuries de talents sur certains métiers, secteurs en tension. Et ça marche très très bien. Alors le Pôle emploi le fait déjà depuis de très nombreuses années, donc ça s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Donc j'invite les recruteurs à se renseigner pour pouvoir bénéficier de cela. Et nos amis anglo-saxons le font depuis très très longtemps, ça s'appelle le Trial Day, par exemple, où en fait ils font venir le candidat pour une journée pour tester, et à la fin on se met d'accord, est-ce qu'il a envie de rester, est-ce qu'il n'a pas envie, est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas. Et donc il y a la méthode de recrutement par simulation, il y a aussi un autre élément qui peut être intéressant, c'est la PMSP, que peu de recruteurs connaissent malheureusement, et c'est une période vraiment d'immersion professionnelle en entreprise, et qui permet également aux candidats de tester un métier et de directement se confronter à la réalité du job, et de se dire, bah, ça m'intéresse, je continue là-dedans. Et ça va tenir compte des compétences, des appétences du candidat, sans regarder toutes les lignes du CV. Est-ce qu'il a bien le bon diplôme? Est-ce qu'il a les compétences, l'expérience chez le concurrent? Ça, on n'en tient pas compte.
PMSMP, je me permets de préciser pour nos auditeurs, c'est période de mise en situation en milieu professionnel. Merci Dalal d'avoir évoqué ces deux notions-là de PMSMP et de MRS. Moi, j'y crois beaucoup à ce que j'appelle le recrutement immersif et c'est pas suffisamment connu et c'est pas suffisamment mis en pratique en France. J'allais dire à mon grand désespoir, j'exagère un petit peu, mais c'est dommage, c'est des outils qui existent, qui sont mis à notre disposition et qui permettent de faire fi de tout ce qui peut polluer en fait le recrutement pour se concentrer sur les compétences, et donc ça lutte extrêmement bien contre ce biais cognitif.
Exactement. Il y avait un autre levier qu'on peut encore actionner en tant que recruteur. Aujourd'hui, la quasi-totalité des recruteurs utilisent des ATS, donc des Applicant Tracking Systems, donc qui sont des logiciels de recrutement. Et il y a des solutions qui existent, donc des algorithmes de recrutement qui sont labellisés éthiques, recrutement éthique, et qui sont, de par, dès leur conception, l'utilisation des CV et des données éthiques, et qui permettent de contrer ces biais, de lutter contre les discriminations grâce à l'outil. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et je pense notamment à l'IA, l'intelligence artificielle, qui peut permettre aussi de lutter contre ces discriminations à condition d'emblée, en fait, de les paramétrer pour faire en sorte de ne pas discriminer.
Je ne connaissais pas, je trouve ça super intéressant. Donc tu me dis en fait qu'il y a des IA qui sont développées avec une vision éthique dès le départ pour lutter contre les discriminations. Est-ce que de ton côté, tu mesures en fait l'efficacité de tes process, notamment en ce qui concerne la diversité, l'objectivité et l'équité?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ATS qui te permettent de calculer des ratios, nombre de femmes, nombre d'hommes. Ça peut te calculer également quels profils viennent des universités, d'autres de grandes écoles avec des tags particuliers. Donc aujourd'hui, on peut mesurer très, très précisément les ratios, aussi les adresses. On peut aussi mesurer. Donc, est-ce que tu as des profils qui viennent plus de telle et telle région, de telle... C'est tout à fait mesurable grâce à des ATS qui sont maintenant calibrés pour le faire.
L'adage, en fait, il dit « qui se ressemble, s'assemble » et globalement, ça choque pas grand monde. Pour autant, dans ton article, tu qualifiais ce biais d'insidieux poison. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui en sont pas forcément convaincus, nous dire en quoi c'est effectivement un poison et en quoi c'est dangereux, aussi bien pour les organisations que pour les candidats?
Oui, en fait, c'est un insidieux poison aussi bien pour les candidats que pour les entreprises. Tout d'abord, pour les entreprises, en fait, c'est un manque à gagner considérable au niveau de la performance des équipes. Parce que quand vous avez dans une même équipe homogénéité des points de vue, il est compliqué d'innover, d'aller chercher des nouveaux business, par exemple. Et il est prouvé, il y a des études, notamment une étude de l'OIT, qui dit que les équipes diversifiées sont 60% de fois plus productive et créative que les équipes très très homogènes avec des profils similaires. Donc il y a un manque à gagner déjà au niveau de la performance des équipes, un manque à gagner au niveau de l'équilibre aussi des équipes, donc ça augmente le turnover aussi. Quand l'équipe est figée, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de diversité, bah les équipes s'ennuient plus vite. Hein, et donc, du coup, il n'y a pas de renouvellement. Et en fait, les personnes s'en vont parce qu'elles s'ennuient, hein, tout simplement. Et au niveau des candidats, les premiers lésés, en fait, ça va être les seniors, ça va être les femmes, ça va être les personnes issues des quartiers populaires de la ville, donc les QPV, les quartiers défavorisés. Et du coup, il y a deux phénomènes en fait qui interviennent. Le premier, ça va être l'autocensure, parce que quand on va être face à une offre d'emploi qui n'est pas du tout inclusive, les candidats vont s'autocensurer. Donc c'est autant de pertes de candidats, de talents potentiels pour l'entreprise, que de candidats qui vont se dire bon bah c'est pas pour moi, j'y vais pas parce que je me retrouve pas du tout dans cette annonce qui m'exclut d'emblée, par exemple. Ça peut être des annonces où on va retrouver, il faut être disponible, je sais pas moi, en soirée, ce genre de choses. Et donc du coup les mamans vont se dire bah je peux pas, ou et c'est un manque à gagner au niveau de la performance des entreprises.
Alors comment rendre une offre d'emploi plus inclusive?
Eh bien, ça, justement, c'est de faire en sorte que le contenu s'adresse à tout le monde et que tout le monde puisse se dire, bah, pourquoi pas moi? C'est par exemple, si on cherche quelqu'un qui parle français, c'est de pas noter qu'il faut avoir la langue maternelle français, par exemple. Parce que du coup, ça va exclure tous ceux qui ont appris le français, on va dire, à l'école ou qui... voilà, ça va être, en fait, quand on cherche un profil dans de l'assistanat, c'est de pas mettre, je cherche une assistante, mais une assistant, pour, en fait, faire en sorte que ça s'adresse à tout le monde et éviter aussi les sanctions pénales. Parce qu'en fait, au-delà d'être inclusif, cette annonce doit s'adresser au plus grand nombre et ne pas être discriminante. Et là, c'est 3 ans d'emprisonnement pour l'employeur et 100 000 euros d'amende.
Je pense que c'est un bon rappel, ça interpelle. Pour finir, si tu ne devais nous donner qu'un seul conseil, voilà, à la fin de ce podcast, on doit retenir un seul conseil de ta part, ça serait lequel?
Essayer, c'est tester. Donc, je partirais sur... tester le métier grâce, par exemple, à la MRS proposée par le Pôle emploi, d'essayer de recruter des profils différents, de faire tester et d'ensuite se rendre compte que ça peut tout à fait être le bon profil qu'on cherchait. Et petit à petit, ça va instaurer une dynamique positive et on aura beaucoup plus de diversité et de performance dans les équipes.
Un grand merci, Dalal, d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Je suis très heureuse que tu nous aies apporté ton éclairage sur les biais cognitifs de manière générale et plus particulièrement sur ce biais du syndrome du scarabée sur lequel tu avais écrit. Un grand merci à toi.
Merci beaucoup, Marie-Sophie, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de discuter recrutement avec une passionnée.
Comme le dit si bien l'adage, qui se ressemble s'assemble. Il n'est donc pas étonnant que recruteurs et managers favorisent, consciemment ou inconsciemment, des profils qui leur ressemblent, même cursus, expérience professionnelle similaire, loisirs communs, et finissent par recruter des armées de clones. Ce manque de diversité nuit cependant gravement à la performance et à l'innovation des organisations. Mais heureusement, comme nous l'a si bien expliqué Dalal, ce biais cognitif du syndrome du scarabée et de l'entre-soi peut être atténué par la mise en œuvre de différentes techniques et dispositifs, comme, en premier lieu, la lutte contre les stéréotypes, le recours au collectif, ou bien encore le recrutement immersif. Vous venez d'écouter « Histoire de recruteur », le jour où je me suis aperçue que j'avais recruté une armée de clones. Sachez que vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Spotify, Deezer, Ocha, Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous.